Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Frère Bednar du Collège des Douze Apôtres. Frère Bednar, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci, Frère Webb.
Et nous vous remercions tous de votre présence, ainsi que tous ceux d'entre vous qui nous regardent, où qu'ils soient partout dans le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis sûr que vous avez remarqué que la forme de cette réunion est un peu différente de celle de la traditionnelle soirée avec une autorité générale. Il y a plusieurs années, Frère Bednar nous a rappelé qu'enseigner n'est pas raconter, mais que cela inclut écouter, observer et discerner. Cela inclut certainement le fait d'inviter le Saint-Esprit à nous instruire. C'est donc dans cet esprit que nous voulons que la forme de cette réunion diffère légèrement afin de susciter ce genre d'expérience et d'interaction avec vous ce soir. Nous demandons à chacun d'entre vous de prier intérieurement pour que le Saint-Esprit nous instruise. Nous sommes impatients d'apprendre ensemble dans le cadre de cette expérience. À nouveau, merci. Plongeons-nous directement dans le sujet. Nous avons plusieurs questions, frère Bednar y répondra, en posera peut-être quelques-unes et vous engagera dans la conversation. Nous aimerions commencer par vous poser une petite question sur la révélation personnelle. Dernièrement, le président Nelson nous a enseigné l'importance de la révélation personnelle. Nous aimerions vous demander ce que vous ajouteriez et que vous nous disiez ce que vous avez appris en tant qu'apôtre et à titre personnel sur la façon de la recevoir.
La première pensée qui me vient à l'esprit est que nous compliquons souvent la tâche pour recevoir la révélation personnelle. Je veux dire par là que la promesse de l'Alliance est que si nous honorons nos alliances, nous pouvons toujours avoir le Saint-Esprit avec nous. Mais nous en parlons et faisons comme s'il était rare d'entendre la voix du Seigneur par l'intermédiaire de son esprit. Et cela me paraît un peu curieux. C'est comme si je devais suivre ces quatre étapes. Partout, nous avons des listes, nous avons des formules. Faites ces quatre choses et le Saint-Esprit vous parlera. Vous l'entendrez. Je me dis, attends un peu. Nous ne devrions pas essayer de le reconnaître lorsqu'il se manifeste. Nous devrions reconnaître ce qui fait qu'il s'en va. Il devrait être avec nous tout le temps, pas pendant quelques nanosecondes. Mais si l'on fait de son mieux, on n'a pas besoin d'être parfait. Si vous et moi faisons notre mieux, et si nous ne commettons pas de transgressions graves, alors nous pouvons compter que le Saint-Esprit nous guidera. Je pense donc que parfois, nous partons avec le désavantage de croire que nous devons être prêts à le reconnaître, alors qu'il devait être là tout le temps. Deuxièmement, je pense que dans la culture de l'Église, surtout en Occident, nous semblons penser que le Saint-Esprit se manifeste de manière spectaculaire, grande et soudaine, alors qu'il le fait de manière douce, petite et croissante au fil du temps. Et qu'il n'est pas nécessaire que vous reconnaissiez que vous recevez une révélation au moment où vous la recevez. Donc, parce que nous pensons que cela doit être grand et le savoir, nous avons toutes ces choses qui, selon moi, sont exactement l'opposé de ce qui se passe réellement lorsque nous recevons la révélation. Je pense que Néphi est l'exemple parfait de ce modèle. Il est parti, ne sachant pas d'avance ce qu'il allait faire. Ce qui me frappe dans cette expérience, c'est que Néphi l'a écrite a posteriori. Il a donc dû prendre du recul et réfléchir à son expérience. Loin de moi l'idée de vouloir utiliser un langage familier, mais dans le langage moderne, je pense qu'il dit « Je n'avais absolument aucune idée de la manière dont ça allait se faire. » Mais il part. Il part. Et ce faisant, il est guidé. Mais je ne suis pas sûr qu'il sache tout pendant qu'il va de l'avant et se met en route. La raison pour laquelle ce récit se trouve au tout début du livre de Mormon est de permettre à chacun de nous de le lire 48 millions de fois dans sa vie. C'est avant les chapitres d'Ésaïe. Je pense que c'est peut-être intentionnel. En arrivant à ce point, on est bloqué, on revient en arrière, on relit encore et encore. Mais nous n'en déduirons jamais ce qui lui est arrivé et probablement la manière dont cela doit se passer pour nous. Je vois des membres de l'Église qui sont terrifiés à l'idée de faire une erreur. Néphi a-t-il fait une erreur la première fois qu'ils ont tiré au sort? Ça n'a pas marché. Mais quelle leçon n'a-t-il pas apprise, lui et sa famille? Et ses frères? Rien n'a marché quand ils ont essayé d'échanger leur or et tous leurs biens. Mais ils ont appris une leçon. Il n'est donc pas nécessaire que ça soit grand, spectaculaire, rapide, immédiat, et que cela marche à chaque fois. C'est probablement tout l'opposé. Nous en tirons la conclusion d'une manière ou d'une autre.
Je pense que c'est une merveilleuse réponse, surtout lorsque nous instruisons les jeunes. Lors de conversations, je vous ai entendu dire aussi que c'est vrai lorsque la révélation vient par l'intermédiaire des dirigeants de l'Église, pour les membres de l'Église et dans notre façon de voir cela, et de réagir aux révélations venant du président Nelson et d'autres dirigeants de l'Église. Avez-vous quelque chose à ajouter à notre compréhension de la révélation et de la manière de réagir à celle venant de nos dirigeants?
Avec plaisir. À nouveau, de nombreux membres de l'Église parlent de toutes les révélations reçues depuis que le président Nelson est devenu le président de l'Église. J'espère que ce que je vais dire ne sera pas perçu comme sarcastique, parce que nous n'avons pas eu grand-chose avec le président Manson et pas vraiment eu grand-chose avec le président Hinckley. Les choses qui vont se produire maintenant sont le résultat d'années et de décennies de travail. Je pense que l'illustration parfaite pour les gens de notre âge, ou peut-être juste les plus vieux comme moi, dans les années 50, le président Mackay souligne l'importance de la famille. Dans les années 50 et 60, il y a des programmes télé appelés « Papa a toujours raison » et « Leave it to Beaver ». Il ne peut rien avoir de plus sain que cela. Pourquoi donc à cette époque, le président Mackay a-t-il mis l'accent sur la famille? Parce que nous en avons besoin aujourd'hui. Nous aurions 70 ans de retard si nous y mettions maintenant. Donc ceci n'est pas nouveau. Dans de nombreux cas, la révélation ne porte pas sur ce qu'il faut faire. La révélation porte sur le moment de le faire. Le président Hinckley, de Petit Temple, tout le monde reconnaît au président Hinckley la paternité des Petits Temples. Il est rentré de mission, il a travaillé pour l'Église, dans le département missionnaire et dans celui de la communication. David O. Mackay le fait venir dans son bureau et lui dit « Frère Hinckley, nous allons construire un temple en Europe et nous avons besoin de présenter les ordonnances du temple dans de nombreuses langues et en même temps. » Il n'avait jamais eu à relever ce défi auparavant. Gordon B. Hinckley ne l'a pas relevé tout seul, mais cela a été le début du questionnement sur l'utilisation de moyens audiovisuels pour présenter les ordonnances du temple. Dans les années 60, devenu membre des 12, il était en Asie. J'ai lu les minutes du Collège des 12 dans lesquelles Gordon B. Hinckley écrit depuis l'Asie et dit « Les méthodes que nous utilisons pour les ordonnances du temple dans les grands temples d'Utah ne conviendront pas pour ce que nous devons faire ici. » Cela se passe dans les années 60. Dans les années 70, il est membre de la première présidence. Sous Spencer Kimball, les premiers petits temples sont construits. Ensuite, il devient président de l'Église. Et voici l'histoire. Il est dans le nord du Mexique. Il se soucie des saints de cette région qui n'ont pas la possibilité de se rendre au temple. Et sur une serviette en papier à l'arrière de la voiture qui le conduit, voici la révélation. La révélation que reçoit le président Hinckley n'est pas l'idée d'un petit temple. Nous en aurons une centaine d'ici à l'an 2000. La révélation indiquait quand agir, pas quoi faire.
Merci. Je pense que c'est vraiment utile pour nous lorsque nous enseignons aux jeunes ce qu'est la révélation et comment y réagir. Et dans notre propre vie, lorsque nous apprenons à tenir conseil ensemble et à progresser dans la compréhension de la révélation et des réponses dont nous avons besoin, c'est vraiment utile.
Si vous me permettez une suggestion concernant l'éducation dans l'Église, nous travaillons très dur afin de ne pas nous restreindre à des formules du type « faire les trois choses suivantes ». Certains principes portent sur les façons de recevoir la révélation. Par exemple, il est probable que tout le monde ici et toutes les personnes qui nous écoutent ont lu le discours du président Packer sur les oiseaux blancs comme neige. On trouve un principe très important sur les révélations dans ses remarques préliminaires. Je ne peux le citer pour moi, mais il a dit « Pour me préparer à donner ce message, j'ai dû le faire par de très petits blocs de temps au milieu d'autres obligations. » Il a ajouté « L'une des étapes de ma préparation était de venir sur ce campus et d'en faire le tour à pied. Je suis allé au bâtiment Mézère et m'y suis arrêté parce que c'était l'endroit où il devait donner le message. » Puis il a dit « Harold Billy m'a enseigné que l'on reconnaît plus facilement la révélation lorsqu'on est à l'endroit où elle est nécessaire. Puis il a simplement dit, le président Lee avait raison. Eh bien, ce qu'il vous dit, c'est que si je donne ce message sur ce campus, il y a un intérêt à être sur place, à méditer, prier et chercher de l'aide. Les implications pour notre époque sont énormes pour le service pastoral. Tout le monde pense qu'un message texte suffit. Il y a des occasions où vous devez être chez les gens et les regarder droit dans les yeux, parce que vous allez recevoir des révélations et de l'inspiration chez eux que vous ne recevrez d'aucune autre manière.
C'est excellent. Cela me fait penser à une autre implication. En tant qu'instructeur, lorsque nous nous préparons et prions pour nos étudiants, passer en revue la liste de leurs noms dans notre esprit, n'est-ce pas? Il ne s'agit donc pas simplement de préparer une leçon, mais de chercher l'inspiration pour que les personnes que nous instruisons et servons.
Encore une fois, souvent, vous aurez un éclair d'inspiration et un nom vous viendra à l'esprit. Ou il se peut même que vous voyez un visage familier. Je vous suggère que, si cela arrive soudainement, c'est exactement ce que le prophète Joseph a dit, des éclairs soudains d'intelligence. Elles sont vraiment remarquables.
Merci. Cela m'amène à d'autres questions. Pouvons-nous passer à une autre idée?
Non, j'ai une question à leur poser.
Très bien, parfait.
Aidez-moi à savoir si quoi que ce soit était confus ou nécessitait une clarification avant que nous continuions. Qu'avez-vous entendu et qu'est-ce qui vient d'être dit? Je vous en prie. Je vais vous passer le micro. Pouvez-vous le passer derrière, s'il vous plaît?
J'essaie de bien comprendre. Ce n'est pas quoi faire, c'est quand le faire. De temps en temps, nous recevrons également des révélations sur ce que nous devons faire.
Ne le transformez pas en quelque chose de mutuellement exclusif. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Souvent, ce qu'on doit faire est bien clair. Mais c'est le timing, c'est le bon moment pour le faire qui nous pose des problèmes. Il s'agit donc des deux, pas de l'un ou de l'autre.
Très bien.
C'est une excellente question. Est-ce plus clair? Cela aide-t-il?
Oui.
Très bien. Passez le micro par ici, s'il vous plaît.
Merci. Une petite clarification. J'ai peut-être mal compris l'idée de recevoir la révélation. Nous ne voulons pas suivre une liste préétablie. Ce sont plus des principes, n'est-ce pas? Pourtant, dans les Écritures, nous voyons Joseph F. Smith, Nephi lire les Écritures et écouter les paroles des prophètes, lire les Écritures et recevoir des révélations. S'agit-il de principes ou d'un modèle?
Je pense que vous faites un festin de la parole de Dieu afin de pouvoir entendre la voix du Seigneur.
Donc un principe.
Vous voyez, c'est quand nous le transformons en « fais ces trois choses et voilà ce qui va se passer ». Nous devons nous confier en l'Éternel. Il transmet, nous ne réclamons pas. Nous devons donc être alertes et réactifs à son calendrier, pas à celui que nous demandons.
Ce que je comprends, c'est que nous devons vivre de manière à toujours être prêts à recevoir la révélation, chaque fois que le Seigneur est prêt à nous en donner. Donc,
pas prêt à. Vous voyez, ce langage évoque pour moi. Non, eh bien, quand elle arrive, vous vivez dans la révélation. Attendez, je pense que cette phrase est importante. Au lieu de penser, tandis qu'on avance tranquillement, « Oh, je dois marquer une pause dans ce que je fais et me préparer à recevoir la révélation », vous êtes dedans, en permanence, afin que nous ayons toujours son esprit avec nous. Il y a des gens qui vont aller à l'extrême et se dire, « Il faut recevoir la révélation pour la boîte de haricots à l'épicerie. Il faut aussi qu'il y ait un peu de bon sens. » Mais penser que notre vie quotidienne est séparée de l'influence constante de l'esprit et qui ne se manifeste que lorsque nous sommes préparés, selon la formule, je pense que cela nous barre la route et nous embrouille. Excusez-moi, allez-y.
Je me demandais, je pense probablement que vous avez donné un discours sur le fait d'être en communication constante avec Dieu et que nous prions le matin. Et que c'est alors que nous communiquons constamment avec lui. Tout comme la façon dont nous pouvons toujours aimer dans notre cœur, nous pouvons toujours avoir une prière dans le cœur. Il ne s'agit pas donc simplement de nous préparer pour la révélation, mais d'avancer en étant guidé par Dieu tout au long de notre vie, tout au long de chaque journée.
Pensez à la façon dont Oliver Cowdery est devenu secrétaire de Joseph Smith. Il entend parler de plaques d'or, il entend l'histoire de Joseph Smith, il a le désir de le rencontrer. Eh bien, d'où cela est-il venu? Cela se trouve dans la sixième section des Doctrines et Alliances. Je vais le citer rapidement.
Je pense encore
que c'est dans la sixième section des Doctrines et Alliances. Néphi, c'est au chapitre 4 du livre de Mormon. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle ces exemples sont au début de ces livres. Si tu le fais bien, si tu fais le bien, oui, et reste fidèle jusqu'à la fin, tu seras sauvé dans le royaume de Dieu, ce qui est le plus grand de tous les dons de Dieu. Car il n'est pas de plus grand don que celui du salut. Je dis souvent, sois un bon garçon ou une bonne fille, et vas-y. Cela s'accompagne de « si tu fais le bien ». En vérité, je te le dis, tu es béni, c'est adressé à Olivier, pour ce que tu as fait, car tu m'as interrogé. Et voici, toutes les fois que tu m'as interrogé, tu as reçu des instructions de mon esprit. S'il n'en avait pas été ainsi, tu ne serais pas venu là où tu te trouves en ce moment. Voici, tu sais que tu m'as interrogé et que j'ai éclairé ton esprit. La phrase suivante de ce verset est la plus percutante. Oliver était inspiré et il n'avait aucune idée qu'il était inspiré. Il était en train de recevoir une révélation et ne savait pas que c'était le cas. Donc, une révélation est donnée à Oliver par l'intermédiaire de Joseph Smith, dans laquelle celui-ci doit lui dire qu'il avait été inspiré et recevait une révélation. Et maintenant, je te dis ces choses pour que tu saches que tu as été éclairé par l'Esprit de vérité. C'est ce que je veux dire par « nous sommes dedans ». Ne nous arrêtons pas pour essayer de la recevoir. Merci.
Same question.
Même question.
Is this confusing or is this helpful?
Confus ou utile?
Je pense que les implications de ces principes, surtout celui de recevoir la révélation là où l'on se trouve, en dit long sur ce que nous faisons pour l'instruction dans l'Église, qui est d'être là où sont les étudiants. Si nous ne pensons qu'à notre obligation d'être en classe, qu'à enseigner, nous pouvons rater l'occasion de recevoir la révélation pour nos élèves, afin de pouvoir enseigner ce dont ils ont besoin. Cela signifie parler aux dirigeants de la prêtrise, cela signifie appeler chez eux, cela signifie assister à leur match, cela signifie être avec eux, pas juste remplir un rôle, mais les regarder dans les yeux et apprendre leur histoire pour pouvoir les instruire. Je pense que tout cela fait partie de notre préparation afin que lorsque nous sommes en classe, notre enseignement puisse avoir plus de la puissance et de l'autorité qui viennent du Saint-Esprit.
Je pense que les questions de vos élèves sont l'une des plus grandes sources d'idées à votre disposition. Depuis pas mal d'années, j'utilise mon iPad. Ce que je dis n'est pas une recommandation, ce n'est qu'une description, d'accord? Par exemple, tout récemment, j'étais dans un endroit où j'ai rencontré 1700 jeunes un vendredi soir. Je leur ai donné un numéro de téléphone grâce auquel ils peuvent envoyer anonymement des questions sur mon iPad. J'ai fait cela lors d'une réunion spirituelle à BYU Idaho. Il y avait 15 000 étudiants présents dans l'auditorium. Des gens écoutaient à la radio et la vidéo était diffusée en direct. Ce soir-là, je veux m'assurer que je n'embellis rien, j'ai reçu 14 000 questions. Si vous lisez ces questions, c'est l'une des expériences les plus édifiantes qu'il est possible d'avoir lorsqu'on travaille avec les jeunes. Je crois que nous n'avons aucune idée de leur situation. La lecture de ces questions, qui sont anonymes, montre qu'ils disent réellement ce qui les trouble et en quoi ils ont besoin d'aide. Donc voilà le point de départ. Comment savoir ce qu'il faut dire avant de connaître leur situation? C'est un élément très important, je pense. Autre chose? Oui, sœur, je vais prendre le micro.
Just yesterday, I
pas plus tard qu'hier, j'ai écouté
quite...
le discours de Frère Roland. N'abandonnez pas donc votre assurance. Il parle d'Oliver Cargery et de son occasion manquée de traduire. Frère Roland a dit, il a manqué la chance de sa vie au moment où elle se présentait. Et j'y ai repensé lorsque vous avez parlé du moment où agir. Ce qui est confus pour moi, c'est une fois que si nous savons que nous devons faire quelque chose, comment pouvons-nous être sûrs que nous le ferons au bon moment? J'ai beaucoup de faiblesses et je commets des erreurs. Comme dans l'exemple de Néphi que vous avez cité et son tirage au sort, puis avec l'or. Comment savoir que nous faisons les choses correctement?
Je pense que vous trouverez ma réponse très insatisfaisante. Néphi n'a pas fait d'erreur. C'était une expérience instructive. Ligne sur ligne, précepte sur précepte. Cela le préparait à retourner, sans savoir au préalable ce qu'il allait faire. Je suis vraiment une personne assez simple. Si vous faites de votre mieux, vous êtes consacré, vous êtes dévoué, vous n'allez nuire à personne. Ce sont les cieux, ni vous ni moi, qui sont en charge. En tant que membre des 12, j'ai des missions tout le temps et il m'est tout simplement impossible de tout faire, mais il faut le faire. Et lorsque l'on fait de son mieux, on est renforcé, on est magnifié. Vous ne saurez pas toujours de manière consciente, « Oh, c'est le bon moment !» Vous faites simplement de votre mieux. Je me souviens du président Hinckley, lorsque j'étais plus jeune. Je lui posais des questions et il me disait, « Eh bien, tout finit par marcher. » Je croyais cela, mais je me disais, « Allons, il y a plus que cela. » Plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est la seule réponse. Dieu ne va pas vous abandonner à votre sort. Dans vos efforts pour essayer de secourir ses enfants, d'en prendre soin et de les servir. Par conséquent, si vous faites de votre mieux, tout s'arrangera et vous apprendrez des leçons en cours de route. Maintenant, dites-moi si c'était insatisfaisant ou si c'était utile.
C'était céleste.
Pas du tout.
Merci.
Autre chose qui manquait de clarté sur ce sujet, selon moi, l'une des questions les plus importantes, mais nous reviendrons sur ce commentaire, gardez-le à l'esprit. Dans notre conversation, qu'entendez-vous qui n'est pas dit? Pas dit par les personnes qui font des commentaires, pas dit par moi. Qu'entendez-vous qui n'est pas dit? Premièrement, au frère qui est derrière vous.
Donc, pour les élèves, en réfléchissant à la manière d'enseigner cela aux élèves, le fait de constamment recevoir la révélation et en flux constant dans leur vie, je réfléchis à ce que je viens d'enseigner il y a quelques heures, et tout est faux. Et j'essaie de...
Eh bien, je suis heureux que nous soyons arrivés à temps.
Je viens de terminer un Néphi 11 et d'enseigner le processus de la révélation par lequel Néphi passe. À présent, j'aimerais retourner l'enseigner différemment, mais dans la perspective des élèves, le fait d'entendre qu'ils doivent être constamment dans ce mode de révélation, comment enseigner ce point aux élèves qui ne se sentent pas à la hauteur et qui ont l'impression que la tâche est insurmontable.
Quel est votre avis?
J'ai l'impression qu'en tant qu'élève, c'est une tâche intimidante. Mais je pense aussi que si je me rapproche du Sauveur dans tout ce que je fais, reconnais son expiation et foi en elle, alors je suis à la hauteur de la tâche et peut l'être si l'on me demande de le faire.
J'aimerais faire une suggestion et que vous me disiez ce que vous en pensez, d'accord? Au lieu de vous dire « que vais-je leur dire ?», posez-vous la question « que vais-je leur demander ?» Et pas seulement « que vais-je leur demander ?», mais « que vais-je leur demander de faire ?» Une partie du temps pourrait être consacrée à une discussion totalement honnête. C'est très intimidant pour nous tous. Alors, aidez-moi à savoir, qu'en pensez-vous, en fonction de votre situation et de ce qui vous semble intimidant, par où commenceriez-vous? Le simple fait de leur poser cette question c'est les inviter à agir. Si un élève commence à répondre à certaines questions, c'est une expression de foi en Christ. La foi est un principe d'action et de pouvoir. Lorsque nous agissons en accord avec les enseignements du Christ, nous sommes bénis en recevant son pouvoir. Ce que nous voulons tous, c'est le pouvoir d'agir. Ça ne marche pas. Notre instinct ne doit pas être « que dois-je leur dire ?» La question doit être « que puis-je leur demander de faire ?» Quelles questions inspirées puis-je poser qui, s'ils sont disposés à répondre, commencera à faire venir le Saint-Esprit dans la vie de ces personnes. Cette personne invite le Saint-Esprit à répondre à la question. Nous ne le pouvons pas, contrairement à lui. Notre rôle est de susciter un cadre sûr pour aborder ces questions et les inviter à agir afin que le Saint-Esprit puisse instruire. Que répondez-vous à cela?
C'est merveilleux. Maintenant, ma tâche est d'être préparé et être en phase avec l'Esprit afin de poser les bonnes questions pour les aider à comprendre cela. Oui.
Vous voyez, une partie de ce que nous voulons toujours faire en Occident est « voici la formule pour poser la bonne question ». Si vous aimez les enfants, si vous les regardez et les écoutez, les questions sont vraiment très simples. Donnez-leur ce que vous venez d'entendre, ce que vous apprenez. Chacune de ces observations vous permet ensuite de... On en a parlé par ici. Vous devez savoir où ils en sont. Vous en apprenez un peu plus sur leur situation. Vous êtes mieux à même d'être précis dans ce que vous demandez et dites. Je pense que l'une des choses qui m'attriste le plus, c'est de voir des membres incroyablement fidèles qui ont fait tout leur possible pour faire ce qui est juste et bien, et qui pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur parce qu'ils n'ont pas toutes ces expériences spectaculaires que les gens décrivent en réunion de jeunes et de témoignages. À une occasion, j'ai indiqué que ce fait n'était pas normal. Vous êtes normaux. Si vous ne faites qu'avancer laborieusement, et vous savez, parfois, on prend la mauvaise route et on fait demi-tour et on revient. C'est un peu comme cela que c'est supposé marcher. Si vous honorez vos alliances et allez résolument de l'avant, tout va bien, vous êtes normaux. Une sœur membre de l'Église depuis 40 ou 50 ans m'a pris dans ses bras en disant « Je me demande vraiment si je peux être à la hauteur. » Comment cela se fait-il qu'autant de membres d'Église se martyrisent avec cela? Je pense que c'est parce qu'ils ont commencé au mauvais endroit. C'est grand, c'est spectaculaire, c'est tout d'un coup, tout le monde parle de cela, c'est ce que je vois dans les Écritures. C'est pas ce qui se passe pour moi. Alors, il doit y avoir quelque chose qui va pas chez moi. Non, vous êtes normaux. Et lorsque vous montrez que Saul n'a pas été converti par la lumière et qu'Alma le Jeune n'a pas été converti par l'ange, lorsqu'il parlait publiquement, Alma le Jeune n'a pas souvent mentionné l'ange, même jamais, sauf à ses enfants. Il a dit, j'ai jeûné, j'ai prié. Ce n'est pas l'ange qui l'a fait. Excellente question, merci. Laissez-moi prendre le micro. Donc, qu'entendez-vous qui n'ait pas déjà été dit? Est-ce que la question vous semble logique? Hello? Qu'entendez-vous? Oui, sœur. Pouvez-vous passer le micro derrière, s'il vous plaît?
J'entends que je dois avoir confiance dans ma relation avec les cieux et celle que j'ai avec mon Père Céleste et mon Sauveur. Qu'il me guide dans mes choix et dans mes interactions avec les gens, avec ma famille, dans mes appels, dans les responsabilités qui sont les miennes.
Oui, vous voyez cette confiance que la vertu orne sans cesse tes pensées, alors ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu. Pas la confiance en vous-même, la confiance en eux, pour que s'accomplisse ce qu'aucun d'entre nous ne peut faire. Très bonne observation. Très bonne observation. Quelqu'un d'autre?
Puis-je être un participant?
Bien sûr.
Je pense que c'est très utile. Je pensais à deux choses. La première, rapidement, c'est Moroni 7, n'est-ce pas? Ce qui nous incite à faire le bien et à croire au Christ et de Dieu. Nous pourrions être surpris un jour par les pensées que nous croyons être les nôtres et qui, en réalité, venaient du Saint-Esprit. C'est comme lorsque nous essayons de faire le bien, comme vous dites, c'est nos pensées et nos désirs seront guidés par le Saint-Esprit. L'autre idée est, à mon avis, très intéressante. Je pensais au discours du président Nelson sur la révélation dans lequel il a dit Déversez votre cœur à notre Père Céleste, parlez avec lui, soyez honnête avec lui, et puis écoutez. Notez les impressions que vous recevez et agissez en conséquence. Puis l'ajoutez, si vous répétez ce processus jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, vous progresserez dans le principe de la révélation. Pour moi, personnellement, je n'ai pas reçu le plus souvent l'inspiration pendant que je priais. Je prie, je médite, j'essaie de noter les impressions que je reçois, mais en me mettant à l'œuvre, c'est là que l'inspiration arrive. Pendant la leçon, l'inspiration arrive. En chantant un cantique ou en parlant à quelqu'un ou dans un autre cadre, les réponses aux prières commencent à venir. Donc, je pense simplement que c'est très important d'enseigner ce processus et que cela fait partie de ce que nous sommes, pas d'un événement comme vous l'avez expliqué.
Nous essayons de faire simple. Je prie et les réponses viennent. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas facile.
Oui, je vous remercie. C'était très utile.
Une autre chose, nous n'avons pas encore terminé. Qu'entendez-vous qui ne soit pas dit? Nous devons être prudents. Des personnes vont vous écouter, cela dans le monde entier. Les moyens ou modes de révélation peuvent varier, pas géographiquement. Par exemple, dans de nombreux endroits d'Afrique, les gens font des rêves remarquables. Je ne m'exprimerai au nom de personne dans cette pièce ou parmi les gens qui nous écoutent, mais je n'ai pas des songes comme certains des saints fidèles d'Afrique. Il n'est pas inhabituel pour les missionnaires d'enseigner quelqu'un, le rencontre quelqu'un dans la rue qui va leur dire « Je vous ai vu dans un rêve et vous avez un message venant de Dieu. Je veux entendre ce que vous avez à me dire. » Je ne sais pas si ce genre d'expérience arrive souvent aux missionnaires de Los Angeles. Donc, ce que nous devons veiller à faire, nous enseignons en grande partie en fonction de notre propre expérience. Il se peut que nous imposions aux gens un modèle qui leur est étranger. Cela ne veut pas dire que le leur soit moins valable ou utile, mais c'est de plusieurs manières différentes que l'Esprit du Seigneur peut se connecter à l'esprit et au cœur de quelqu'un. Entendez-vous autre chose qui ne soit pas dit? Oui, sœur.
Ce que j'ai entendu et ressenti est que cela se résume au fait de comprendre et d'avoir foi en mon Dieu, que je suis enfant de Dieu, d'un Père céleste qui m'aime et qui veut que je réussisse et qui veut me parler et communiquer avec moi. Je pense que nos jeunes, surtout s'ils peuvent comprendre qui ils sont et à qui ils appartiennent, que notre Père céleste, nous pouvons toujours avoir son esprit avec nous. Toujours sa révélation. Il veut communiquer avec nous. Et si nous essayons de faire le bien, d'être bons, de nous rapprocher de lui, il sera toujours là.
Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Oui, frère. Merci.
Pendant que nous disions qu'il était fréquent pour nous de tomber dans le piège qui consiste à essayer de suivre une formule ou un processus spécifique, je réfléchissais à ce qui pouvait en être la cause et pourquoi cela arrivait si souvent. Je pense que nous pouvons tous nous sentir concernés. Je crois que cela tient à une raison, du moins, tient au fait que nous manquons de confiance en nous et en notre capacité d'y arriver par nous-mêmes. Nous voulons nous appuyer sur un processus conçu par quelqu'un d'autre et pour qui cela a fonctionné. Je pense donc que la question est de savoir comment nous acquérons une plus grande confiance dans notre capacité de recevoir des révélations par nous-mêmes et ne pas essayer de nous appuyer sur un processus que nous tenons de quelqu'un d'autre.
Vous connaissez maintenant ma première question, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous?
Je pense que ma confiance a grandi grâce aux expériences. Mais je trouve que c'est un peu difficile dans cette situation parce que si vous n'avez pas ces expériences souvent, vous n'avez pas la chance d'édifier cette confiance.
Bien. Voici une citation. Elle est de Joseph F. Smith. C'est une source crédible pour quelqu'un qui entame ce voyage et se demande comment obtenir cette confiance. Il était président de l'Église. Montrez-moi des saints des derniers jours qui ont besoin de se nourrir de miracles, de signes et de visions pour les garder fermes dans l'Église, et je vous montrerai des membres qui ne sont pas droits devant Dieu et qui marchent sur des chemins glissants. Ce n'est pas par des manifestations spectaculaires que nous serons enracinés dans la vérité, mais c'est par l'humilité et l'obéissance fidèle aux commandements et aux lois de Dieu. N'importe qui peut le faire. Je pense que cela édifie un peu, du moins l'espérance. Si un président d'Église parle de choses de toute évidence, simples et ordinaires, je peux le faire, n'importe qui peut le faire. Autre citation de Joseph F. Smith. Dans ma jeunesse, je demandais souvent au Seigneur de me montrer quelque chose de merveilleux pour que je puisse recevoir un témoignage. Mais le Seigneur m'a refusé les miracles et m'a montré la vérité, ligne sur ligne, jusqu'à me faire connaître la vérité du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, et jusqu'à ce que le doute et la peur n'aient plus du tout de place en moi. Il n'a pas eu besoin d'envoyer un ange des cieux, ni de me parler avec la trompette d'un archange pour cela. C'est par les murmures doux et légers de l'Esprit, du Dieu vivant, qu'il m'a donné le témoignage que je possède. Je n'ai pas encore tout à fait fini. Je pense que n'importe qui peut le faire. Tout jeune en difficulté, n'importe qui d'entre nous en difficulté peut se lancer et faire ce que Joseph Smith a fait. Et c'est par ce principe et ce pouvoir qu'il donnera à tous les enfants des hommes une connaissance qui leur restera, et cela leur fera connaître la vérité comme Dieu la connaît, et connaître et faire la volonté du Père comme le Christ l'a fait. Jamais les manifestations miraculeuses, aussi nombreuses fussent-elles, ne pourront conduire à un pareil résultat. Est-ce que vous comprenez? Cela vous aide-t-il?
Oui, vraiment.
Je pense que nous avons beaucoup de gens dans l'Église qui veulent voir une lumière sur le chemin de Damas et ensuite croire. Vraiment? Saul était-il en condition de reconnaître la petite voix douce? Il a dû recevoir une tape spirituelle sur la tête. Si je pouvais voir juste un ange comme celui qui est apparu à Alma le Jeune, vraiment? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Je ne pense pas qu'Alma était en état d'être sensible aux murmures doux et légers. Joseph F. Smith dit, ce n'est pas l'ange, ce n'est pas la lumière, c'est la petite voix douce. Elle est simplement faite. Je dois souligner que si nous ne respectons pas les commandements, nous ne pouvons pas avoir cette confiance et nous n'aurons pas la compagnie de l'Esprit. Il y a des jeunes qui doivent se repentir. Et il y a des jeunes qui sont si durs avec eux-mêmes qu'ils pensent qu'ils ne sont jamais assez bien. Il n'est pas nécessaire d'être parfait. Vous devez juste être bon, faire de votre mieux et aller de l'avant. Dites-moi si cela a répondu à toutes vos questions. Qu'avez-vous appris et qu'est-ce qui vient d'être dit? Oui, au cours des deux, trois dernières minutes.
J'ai appris que ce n'est pas une question d'ampleur ou de puissance des sentiments, ni quelque chose d'impressionnant ou de grand. Peu importe la façon de le décrire, mais ce sont les choses petites et simples qui s'accumulent au fil du temps, et que quelque chose comme cela ne peut pas être remplacé par plusieurs grandes expériences, si l'on peut dire.
Qu'avez-vous appris sur la manière d'aider un jeune à commencer ce voyage? C'était le vrai cœur de la question que vous avez posée.
Que la chose la plus importante est d'essayer et de faire de son mieux. L'important n'est pas d'être parfait. L'important et d'essayer. Et si l'on fait ce premier pas en avant, on continue d'en tirer avantage. Mais si l'on attend de se sentir prêt, cela n'arrivera jamais.
Vous commencez à recevoir la réponse à votre question lorsque vous essayez d'y répondre. Parce que le Saint-Esprit éclaire votre esprit et accroît votre compréhension. Quelqu'un va transformer cela en une formule et dira, chaque fois qu'une personne vous pose une question, dites simplement, « Eh bien, qu'en pensez-vous ? » Vous devez les aimer et vous devez être sincèrement concerné. Cela peut marcher pour vous. Il n'est pas obligatoire que cela marche pour quelqu'un d'autre. N'en faites donc pas une formule. Soyez ouvert à une grande diversité de suggestions pour encourager et inciter quelqu'un à agir et à prendre par lui-même. Excellente question. Bien, que voulez-vous faire?
J'ai d'autres questions, si cela vous convient. J'aimerais faire un commentaire rapide pour nos instructeurs, parce que je pense que ce que nous venons d'apprendre est remarquablement utile. Mais il y a aussi le modèle. Je sais qu'on vient de nous mettre en garde de ne pas transformer les choses en une formule, mais il y a un principe sous-jacent qui est de nous concentrer sur les élèves et sur leur progression. Pas simplement sur ce que nous disons, n'est-ce pas? Et de répondre. Donc, bien que vous ne vouliez pas de formule, j'espère que vous ferez attention au modèle et au principe derrière le modèle et à ce qui signifie être centré sur les élèves, pas juste sur ce que nous disons. Merci pour vos enseignements.
Si vous les aimez et si vous essayez vraiment de faire ce que veulent les cieux, vous serez naturellement guidé de la plus simple des manières. Les questions ne sont pas des complications. Vous essayez de savoir où ils en sont parce que vous souciez vraiment.
En fait, ma question émane de ça, vraiment. Vous avez beaucoup parlé et écrit sur le fait d'être centré sur les élèves et concentré sur leur progrès. Je me demande juste s'il y a autre chose que vous aimeriez nous enseigner sur la façon d'inviter le Saint-Esprit dans ce processus et sur le fait d'enseigner pour apprendre, pas pour parler simplement, si vous me comprenez.
Ok. Désignez parmi vous un instructeur et que tous ne soient pas porte-parole en même temps, mais qu'une personne parle à la fois et que tous écoutent ce qu'elle dit, afin que lorsque tous ont parlé, tous soient édifiés par tous et que chacun ait un droit égal, donc hommes et femmes. Désignez parmi vous un instructeur. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que cette expression signifie, mais c'est un point à méditer. Nous ne sommes pas les instructeurs, c'est le Saint-Esprit qui est l'instructeur. Il s'agit d'une exhortation à désigner le Saint-Esprit comme instructeur. Un modèle, non pas le seul modèle, un modèle qui consiste à ce qu'une personne parle à la fois et que tous écoutent ce qu'elle dit. Cela paraît si simple et peut même avoir l'air facile. Nous ne sommes pas dans une émission de télé. Hé, que pensez-vous? Si les gens ne craignent pas de poser certaines questions et d'exprimer leurs incertitudes, ils n'apprennent pas d'autres personnes dans la pièce, mais ils participent à une expression collective de foi au Seigneur, Jésus-Christ, tandis que tout le monde présent pose des questions, cherche et frappe. Et au cours de cet exercice individuel et collectif de foi, nous lançons des invitations. Le mot « désigner » ne signifie pas « nommer ». Nous ne pouvons pas désigner le Saint-Esprit comme instructeur, mais nous pouvons inviter et inciter le Saint-Esprit de l'instructeur. J'aimerais vous parler rapidement d'une réunion missionnaire. Nous avions abordé un certain nombre de questions et j'ai demandé aux missionnaires, qu'entendez-vous qu'il n'a pas été dit? Nous avons eu cette question ici. Êtes-vous prêt à entendre la réponse d'un jeune missionnaire de 18 ans qui n'était dans le champ que depuis 4 semaines? Sa réponse était, Frère Bednar, si cela sort de votre bouche ou de celle d'un autre missionnaire, c'est un message pour tout le monde. Si je le sens dans mon cœur, ou si une pensée me vient à l'esprit, cela vient de Dieu et c'est juste pour moi. Êtes-vous impressionné par cette réponse? Combien de temps faudrait-il instruire formellement quelqu'un ou pour créer une sorte de jeu de rôle ou une autre expérience dans laquelle un jeune de 18 ans aurait cette réflexion spirituelle? Je ne sais pas comment le faire. Donc, les inviter à agir, à exercer leur foi, contribuer à inciter le Saint-Esprit à les instruire individuellement et collectivement. Je pense qu'au fond, il ne s'agit pas seulement d'être centré sur l'apprentissage. Il s'agit d'être centré sur l'apprentissage et d'inviter le Saint-Esprit à être l'instructeur. Nous avons un rôle à jouer. C'est nous qui invitons et incitons, et nous... Non, nous ne favorisons pas, nous n'orientons pas, nous ne favorisons pas, nous guidons. Ensuite, le Saint-Esprit agit de manière remarquable.
Je ne veux pas empiéter sur ce que vous allez dire pour diriger cette conversation, mais je pense que les gens essayent réellement de faire cela et ont des questions, et même des obstacles dans leurs efforts pour bien faire. Acceptez-vous que nous posions la même question, ou peut-être que nous leur permettions de poser des questions sur ce sujet?
Certainement. Je ne sais pas, nous avons laissé le micro. Où est-il? Le voilà. Merci. Y a-t-il des questions que vous aimeriez poser et auxquelles Frère Webb se fera un plaisir de répondre? Allez-y. Merci.
Je suppose que ma question s'accompagne d'une illustration. Comment faisons-nous pour nous aider nous-mêmes et aider les jeunes à comprendre ce qu'ils entendent, que ce qu'ils entendent vient de l'Esprit et pas de quelqu'un d'autre autour d'eux? À titre d'illustration, une jeune fille est venue me dire un jour que j'étais le meilleur instructeur de séminaire qu'elle avait jamais eu. Je me suis senti très flatté. Elle m'a dit ensuite, vous vous souvenez-vous du jour où vous avez dit ceci? J'ai répondu, je n'ai pas dit cela. Est-ce que vous vous souvenez de ce que nous parlions de ce sujet et que c'est ce que vous m'avez dit, cela a changé ma vie? Vous souvenez-vous du jour où vous avez dit cela? Je me souvenais absolument bien du jour en question. Et avec la plus grande clarté, je ne me souvenais de rien de ce que j'avais dit. En fait, je ne lui aurais jamais dit ce qu'elle m'a rapporté. Ce n'est pas du tout ce dont nous parlions. Et elle n'avait pas compris ce que j'essayais de lui dire. Ce qui m'a donné le sentiment d'être un merveilleux instructeur. Mais
je ne veux pas vous faire dévier de votre sujet. C'est merveilleux.
Oui, c'est extraordinaire. Elle était très gentille, mais ce n'était pas moi, c'était vous et ça venait de l'Esprit. Comment puis-je l'aider à voir qu'elle a eu une relation magnifique avec le Sauveur et qu'elle reçoit constamment la révélation, qu'elle la reçoit de lui? Comment l'aider à le comprendre afin qu'elle puisse la rechercher davantage pour elle-même avec confiance, se déconnecter tous les jours et se connecter à l'Esprit?
Que pourriez-vous lui demander de faire pour qu'elle ait des yeux pour voir ce qu'elle n'a pas vu avant?
Peut-être quelque chose qui m'aide, méditer, réfléchir, écrire, afin d'être capable d'identifier cette expérience.
Le Saint-Esprit nous rappellera toutes choses. J'essaie de trouver une illustration afin que nous n'ayons pas l'impression de voler à 25 000 mètres d'altitude. Elle a eu cette expérience remarquable dans laquelle elle a entendu quelque chose qui, à l'évidence, n'a pas été dit. Et vous l'avez aidée à l'identifier. Demandez-lui de repenser à son expérience. Revenez dans 2 ou 3 jours. Pouvez-vous trouver 1 ou 2 épisodes similaires? Voyez-vous un modèle dans les 2 ou 3 choses qui se sont produites? Et voyez-vous quelle en est l'origine? Demandez-lui d'y réfléchir. Quand elle reviendra vous voir, elle vous étonnera en disant quelque chose comme, « Si je l'entends dans la bouche de tout le monde, c'est pour tout le monde. » Mais si ce n'est que pour moi, cela vient de Dieu pour moi personnellement. Je sais que les jeunes sont très différents, qu'ils ont toutes sortes de difficultés et de problèmes, mais nous devons attendre d'eux qu'ils soient ce que nous leur disons qu'ils sont. Nous devons les inviter à agir et vous serez étonnés de ce qu'ils vont faire. Je ne connais pas cette fille, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas si c'est la bonne question, mais c'est un exemple d'eux. Réfléchissez d'abord à ce que vous leur demandez de faire afin qu'ils puissent apprendre ce qu'ils ont besoin d'apprendre au lieu de vous dire « Comment puis-je l'aider ?» ou « Que vais-je lui dire de faire ?» L'expression sur votre visage semble dire « Hmm. »
Je revois le visage d'autres élèves et vous m'avez poussé à réfléchir.
Je ne vous pousse pas à réfléchir.
Très bon point.
Pouvez-vous prendre juste une seconde? Qu'est-ce qui vous arrive à cet instant précis quand vous pensez à cela?
Faute de trouver le bon mot, je suis en train de mariner spirituellement et grâce à vous, je suis plongé dans une réflexion profonde et l'Esprit me parle. J'espère que je pourrai la regarder dans les yeux et le moment venu, elle et un autre élève, ils pourront commencer à s'engager dans un processus qui leur permettra de reconnaître que l'esprit les inspire.
Bien. Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre ? Vous avez peur de poser une question parce que vous craignez que je vous la retourne ? S'il vous plaît.
Nous avons beaucoup parlé aujourd'hui de l'écoute, de l'observation et de ce genre de choses. Je pense que nous réussissons très bien à voir et à entendre, mais nous réussissons moins bien à observer et à écouter. J'aimerais que vous nous donniez des idées concernant... Je ne sais même pas si nous nous entraînons à cela. Nous disons qu'il faut écouter et nous ne parlons pas beaucoup de la façon d'écouter. Pouvez-vous nous aider à comprendre, voire même à apprendre comment mieux écouter et mieux observer afin de vraiment voir les autres, afin que nous puissions mieux appliquer ce dont nous parlons ici?
La réponse est non, je ne peux pas, mais je peux vous dire comment la trouver. Je vous recommande de vous procurer un exemplaire du Livre de Mormon, l'exemplaire souple, moins cher, et de le lire du début à la fin. Ne faites pas de recherche informatique par mots-clés. Notez toutes les fois que vous trouvez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et faites de même dans les Doctrines et Alliances et dans le Nouveau Testament. Faites-le dans tous les ouvrages canoniques. Il n'existe aucun mot pour décrire ce que je vais essayer de décrire. Lorsque vous allez dans les Écritures comme un agent, en demandant, en cherchant et en frappant, et que votre question est « Comment puis-je voir ce que je ne vois pas habituellement ? Comment puis-je entendre ce que je n'entends pas habituellement ?» Vous parcourez les Écritures en pensant à ces questions. Le Saint-Esprit vous guidera individuellement et vous donnera la réponse à votre question. Je ne peux pas vous la donner. Je peux dire des choses comme « Vous devez les aimer réellement, vous le savez déjà. » Mais pour vous, en vous plongeant dans les Écritures, le Saint-Esprit vous donnera personnellement la réponse qui vous est destinée. Je ne peux pas. Je ne peux donc pas vous la donner. Mais c'est comme cela que vous la trouverez. Est-ce que ça répond à votre question ?
C'est probablement mieux que la réponse. Donc merci de m'avoir invité à agir.
Merci. Votre commentaire me rappelle un épisode avec ma femme. Suzanne est, et a toujours été, la meilleure instructrice visiteuse de l'histoire de l'Église. Personne ne l'a jamais fait comme elle le fait. C'est tout simplement extraordinaire. Quand le président Nelson a dit « plus élevé et plus saint », elle a écouté, cherché à comprendre ce que cela signifiait. Vous parlez de simplifier. Vous êtes prêts pour ce qui suit ? Elle a dit « David, j'ai réfléchi. J'ai prié à ce sujet et j'en suis arrivé à une conclusion stupéfiante. Je ne peux pas servir tant que les personnes à qui je dois rendre service ne me disent pas ce que cela signifie, si c'est plus élevé et plus saint. Pour elle, l'inspiration consistait à aller voir les sœurs qu'elle visitait depuis longtemps pour certaines et leur demander « Que signifie pour vous que le service pastoral doit être plus élevé et plus saint ?» C'est la question la plus simple qui soit. C'est la question la plus évidente à poser et personne ne la pose. C'est pour cette raison que vous devez être inspiré pour la poser. Les réponses qu'elle a obtenues des sœurs, qu'elle connaissait, l'ont stupéfaite. Une sœur, dont le mari ne la soutient pas, comme membre de l'Église, a dit, « J'ai besoin d'être avec des femmes qui ont les mêmes croyances que moi. Pouvez-vous, vous et votre compagne, trouver dans votre emploi du temps le moyen d'aller au temple, peut-être plus d'une fois par mois? J'ai besoin de cela. Ensuite, nous pourrions aller déjeuner ou juste parler. Que pensez-vous d'avoir une... Cela vient de la personne elle-même, c'est pas ma femme qui lui dit ce qu'elles vont faire. La sœur lui a dit que le plus élevé et le plus saint signifie pour elle. Elle a ajouté, que diriez-vous de prendre un discours de la conférence générale chaque mois, puis de sortir déjeuner une autre fois afin de parler de ce discours? Suzanne a dit, qu'ai-je mal fait pour qu'elle ne m'ait jamais dit cela avant? Vous voyez, tout le monde, qu'ai-je fait? Vous n'avez rien fait de mal. Mais maintenant, c'est plus élevé et plus saint. Des yeux ont été ouverts pour voir comme ils n'ont jamais vu auparavant. C'est vraiment simple. Et ce que nous essayons de faire est de le compliquer la plupart du temps. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Bien.
Bien, nous approchons la fin de notre réunion, donc...
Souhaitez-vous souligner un dernier point? Souhaitez-vous corriger quelque chose?
Non, je pense que je peux m'exprimer au nom de chacun de nous. Nous vous aimons et nous vous soutenons et nous sommes très reconnaissants que vous nous ayez instruits aujourd'hui, d'avoir invité le Saint-Esprit à nous instruire et mettre en pratique ce que nous avons entendu afin de pouvoir continuer à apprendre. Merci infiniment. Nous aimerions que vous preniez les quelques minutes qui restent, en fait, tout le temps que vous souhaitez, pour nous dire ce que vous aimeriez nous dire et nous rendre votre témoignage.
La toute première pensée qui me vient à l'esprit est que je vous aime. Vous qui écoutez cette soirée avec une autorité générale, j'aime qui vous êtes, j'aime ce que vous vous efforcez de devenir, j'aime ce que vous faites. Nous pouvons tous nous améliorer, mais je veux vous remercier. Vivre sur la terre à cette époque de la dispensation de la plénitude des temps est une bénédiction unique. Je vous remercie au nom de la première présidence du Collège des Douze et du Bureau d'éducation de l'Église. Merci. Il y a plusieurs années, lorsque j'étais à Rexburg, frère et sœur Hinckley étaient en visite. Nous assistions à un dîner en l'honneur des personnes qui soutenaient l'université. J'étais assis à côté du président Hinckley et nous parlions de son emploi du temps et de tous les discours qu'il devait préparer. À un moment, mes mains étaient posées sur la table et soudainement, il a tapoté ma main en disant « David, cette époque est l'époque la plus merveilleuse de l'histoire de l'Église rétablie. David, ce n'était pas mieux du temps de Joseph. Ce n'était pas mieux du temps de Brigham. Jamais l'Église n'a été aussi bien considérée, aussi bien reconnue qu'aujourd'hui dans le monde entier. David, jamais n'avons-nous eu les ressources que nous avons pour que cette œuvre aille de l'avant partout dans le monde. David, cette époque est l'époque la plus merveilleuse de l'histoire de l'Église rétablie. Et il a raison. Absolument raison. Pensez à ce que nous avons la bénédiction de voir. Imaginez que cette année, nous fêterons le bicentenaire de la première vision et que l'on peut trouver l'Église à Poipoi en Nouvelle-Guinée, où un temple a été annoncé, à Phnom Penh, au Cambodge. Qui aurait pu y croire? Je suis suffisamment âgé pour me souvenir de l'époque où je n'imaginais même pas que nous aurions des missionnaires en Union soviétique. Et aujourd'hui, nous avons un temple en Ukraine et des missionnaires dans d'anciens pays communistes. Cette époque est la plus grande époque de l'histoire de l'Église rétablie. Nous avons une responsabilité spéciale à cette époque qui est la nôtre. Il n'y a pas de manière élégante de dire ce que je vais vous dire. Lorsque j'étais président de BYU Idaho, nous avions une réunion spirituelle tous les mardis. Chaque orateur commençait son message en disant « Vous êtes la meilleure génération. Vous avez été réservé pour ce jour. J'en avais jusque-là. Je suis tout simplement fatigué d'entendre cela. » C'est exact. En Arkansas, où j'ai vécu pendant longtemps, il y a un dicton qui dit « Lorsque vous prenez un bâton, vous avez les deux bouts. » S'ils ont été réservés pour cette époque, c'est parce qu'ils ont beaucoup à faire et que notre rôle est de les aider à y être préparés. Et nous avons beaucoup à faire. Nous devons être prêts pour cela. Cette époque est la plus grande époque de l'histoire de l'Église rétablie. Celle avec la plus grande opposition et les plus grandes occasions. Je vous aime parce qu'aujourd'hui, ensemble, nous avons l'occasion de servir, de rendre témoignage, d'aider et de secourir. Plus je sers, moins je me satisfais des paroles. Mais je prie pour que le Saint-Esprit comble le fossé entre les paroles que j'exprime et ce que j'aspire à transmettre. Je témoigne que le Père et le Fils sont réellement apparus à Joseph Smith il y a 200 ans. Je témoigne que le Père est notre Père et qu'il est l'auteur du plan du bonheur. Jésus le Christ, je le sais, j'en suis témoin et j'en témoigne, est le Fils unique du Père éternel. Et je témoigne qu'il vit. Il est ressuscité. Le sépulcre est vide. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Je témoigne que par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, l'autorité de la prêtrise, les clés de la prêtrise ont été rétablies sur la terre et que l'apparition du Père et du Fils ont marqué le début du rétablissement de l'Évangile. Et je témoigne que le rétablissement se poursuit. Mes frères et sœurs bien-aimés, je témoigne que toutes ces choses sont vraies. Où que vous soyez, partout dans le monde, je vous donne cette bénédiction que dans votre désir de servir, vous soyez magnifiés et renforcés. Que dans ce que vous faites, vous soyez éclairés, fortifiés et que vos capacités soient multipliées. Ce sera une bénédiction dans votre vie personnelle, dans votre famille et pour les personnes que vous servez maintenant et à jamais. Je témoigne de cela et vous exprime mon amour au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen.